Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée lundi 10 mai, notamment par les audiences du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Tchad, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape a reçu lundi en audience M. Egils Levit, président de la République de Lettonie, qui a ensuite rencontré le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, accompagné de Mgr Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Au cours des entretiens cordiaux, a été exprimée la satisfaction pour les bonnes relations bilatérales en rappelant le centenaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Lettonie et a été soulignée la contribution fondamentale de la foi chrétienne et de l'Église catholique à la promotion d'un humanisme authentique, ouvert à la dimension spirituelle, à la protection de la dignité de l'homme et de la famille. Le pape et son hôte ont par ailleurs abordé des questions d'intérêt commun tant sur le plan international que régional, réaffirmant la volonté de travailler ensemble à la recherche du bien commun et à la promotion d'une culture qui favorise la paix et la fraternité entre les peuples. Toujours lundi, le pape a adressé un message vidéo à l'occasion de la présentation du livre du père Miguel Angel Fiorito, intitulé « Cercare e trovare la volontà di Dio, guida agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola », qui se traduit en français par « Chercher et trouver la volonté de Dieu, guide pour les exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola ». Dans sa préface, le Saint-Père affirme que c'est une véritable mine que d'entrer dans l'âme des exercices spirituels de Saint-Ignace et aide serait le mot clé du bref prologue par lequel Miguel Angel Fiorito introduit à son livre. L'aide spirituelle, estime le pape, est une aide à la liberté. Il s'agit donc d'un soutien guidé par une charité du skète qui, sans malmener les limites, c'est trouver même ses désirs de désir sur lesquels s'appuie la grâce. Grâce à ce désir, il est possible d'aider ceux qui pratiquent la vie spirituelle à faire un pas en avant avec courage et audace. Par conséquent, ce livre doit être lu et utilisé dans la même dynamique et avec le même esprit que celui dans lequel il a été écrit, prévient le pape François. Nous sommes devant un livre modulable, un livre ouvert pour aider ceux qui donnent et ceux qui font les exercices. Tout faire pour rétablir la paix et l'autorité de l'État dans la région orientale de la République démocratique du Congo, c'est ce que demande l'évêque de Boutembo-Béni, Mgr Melchisedek Sikuli Paluku, face à l'état de siège proclamé dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Depuis le début de l'année 2021, une vague d'attaques de groupes armés et d'affrontements intercommunautaires a causé la mort de plus de 300 personnes, aggravant la situation de la nation déjà accablée par une grave crise humanitaire. C'est pourquoi, dans une déclaration pastorale, Mgr Sikuli Paluku a exhorté la population à rester calme et vigilante, appelant les autorités de l'État à rétablir la paix. Sérénité et prudence sont donc les vertus rappelées par le pasteur de Beni Boutembo, ajoutant que face à la situation dramatique et aux massacres répétés que connaît la population sur ce territoire, la tentation de se décourager et de tomber dans le désespoir est grande. L'évêque de Boutembo-Béni a ainsi invité les fidèles à s'inspirer de l'exemple de Saint Joseph, en particulier en cette année qui lui est consacrée pour célébrer le 150e anniversaire de sa proclamation comme patron de l'Église universelle. L'archidiocèse de Nampula au Mozambique a lancé un projet de construction de 200 maisons pour accueillir des milliers de personnes déplacées qui sont actuellement hébergées par l'archidiocèse sous des tentes. Les 200 familles bénéficiaires de ce projet, soit environ 3 170 personnes, ont pour la plupart fui l'attaque du 24 mars à Palma. La ville a été officiellement reprise par les forces gouvernementales au groupe de djihadistes qui se sont déclarés membres de l'État islamique. Les différentes cultures africaines et la manière dont elles ont permis ou empêché la protection des enfants sur le continent africain étaient au centre des préoccupations de Madame Teresa Sagnatwe lors de la session des conférences des interrégionales des évêques d'Afrique australe Imbissa la semaine dernière. Direction Cameroun, où notre correspondant nous relate l'incident survenu lors de la célébration des 40 ans de sacerdoce de Mgr Georges Nkwo, évêque de Kumbo. La célébration eucharistique a été ponctuée de stridents coups de feu qui ont effrayé les fidèles. Heureusement, aucune perte en vie humaine ni dégâts matériels n'ont été enregistrés et la messe s'est poursuivie jusqu'à la fin. Plus de détails dans ce reportage.
Les coups de feu tirés au loin par des séparatistes tapis dans les brousses de la localité de Kumbo ont eu la réplique dissuasive de l'armée camerounaise. Plusieurs fidèles se sont couchés à même le sol par peur d'éventuelles balles perdues pendant les minutes qu'a duré le vacarme des armes à feu. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Bamenda, Mgr Andrew Nkea, a décrit Mgr Nkwo comme un homme d'une foi inébranlable. Cette foi a été perceptible depuis son ordination sacerdotale en 1981 et particulièrement durant les 15 années de son ministère épiscopal dans le diocèse de Kumbo, diocèse qui constitue l'un des foyers des affrontements entre l'armée et les séparatistes. Plusieurs difficultés parmi lesquelles cette crise sociopolitique qui se les régions anglophones camerounaises depuis 2016 n'ont pas empêché Mgr Georges Nkwo de continuer à être aux côtés du peuple de Dieu dans la simplicité, le zèle et le dévouement. À la fin de la messe, le représentant des membres du conseil des laïcs du diocèse de Kumbo a remercié Mgr Georges Nkwo pour sa bravoure, sa charité et son engagement pastoral. En effet, depuis 2006 qu'il est évêque du diocèse de Kumbo, Mgr Nkwo a déjà ordonné 61 prêtres qui, jour et nuit, se dévouent aux côtés des populations. Tous lui ont souhaité encore plus de zèle pour la suite de son ministère. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Concluons cette page de l'actualité de l'Église avec l'envoi en mission de 19 nouveaux catéchistes. Notre correspondant local nous en parle.
12 hommes et 7 femmes, ce sont ainsi 19 nouveaux catéchistes que Mgr Gabriel Sayaogo, archevêque métropolitain de Kupela, vient d'envoyer en mission le samedi 8 mai dernier. Ils ont reçu ce mandat missionnaire au bénéfice de leur diocèse d'origine, Fada Tenkodogo et Kupela même, au terme de 4 ans de formation au centre de formation des catéchistes de Gialgaï au cours d'une liturgie eucharistique. Après l'homélie et la litanie des saints, les nouveaux catéchistes, les mains étendues sur la Bible, ont exprimé leur engagement devant l'archevêque, la douzaine de prêtres concélébrants et l'assemblée en prière. Après quoi, ils ont reçu des mains de l'archevêque leurs outils de travail composés d'un missel complet en langue morée, d'une croix, d'un chapelet et de la médaille des catéchistes. Ils ont ensuite revêtu une aube, habit liturgique qu'ils porteront au cours des célébrations qu'ils auront à diriger en l'absence de prêtre, Mgr Gabriel, au sorti de la messe.
Je suis animé par des sentiments de satisfaction, des sentiments de joie, des sentiments de gratitude au Seigneur qui nous a permis d'envoyer des jeunes aujourd'hui comme fer de lance de l'évangélisation.
À ce nouveau catéchisme, Mgr Gabriel souhaite
que par le témoignage de leur vie d'abord, ils soient des témoins crédibles du Christ. Et je souhaite ensuite que par la grâce du Seigneur, que par la parole, ils puissent répandre ce trésor de la parole du Seigneur dans le cœur de tous les hommes.
Comme et même plus que les diacres permanents ailleurs, les catéchistes ont toujours été aux avant-postes de l'annonce de la bonne nouvelle depuis le début de la mission au Burkina. Paul Dawakadougou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au moins 30 personnes sont mortes noyées après le chavirage de leur bateau surchargé dans l'état du Niger, dans le centre du Nigeria. C'est ce qu'a déclaré lundi un responsable des urgences. Le bateau qui transportait une centaine de commerçants locaux s'est brisé en deux après avoir heurté un obstacle pendant une tempête alors qu'il revenait des marchés samedi, a déclaré Ibrahim Aoudou Hussein, porte-parole du service des urgences dans l'état du Niger. 30 corps ont été retrouvés jusqu'à présent et 5 personnes sont toujours portées disparues, a-t-il ajouté, précisant que l'accident avait eu lieu dans le village de Tijana, situé dans le district de Mounia. 65 passagers ont été secourus avec l'aide de plongeurs locaux, a déclaré le porte-parole. Les recherches ont été entravées par des fortes pluies, mais les plongeurs ont bravé le mauvais temps, a-t-il ajouté. Au moins 12 personnes, dont un officier supérieur de l'armée, ont été tuées et plusieurs blessées lundi soir dans une embuscade tendue contre des véhicules dans le centre du Burundi. La police avait évoqué dimanche soir un bilan de 8 morts lors d'un vol à main armée sur 4 véhicules à Muramvya, ville située à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la capitale économique Bujumbura. Un officier de l'armée burundaise, le colonel Onesphore Nizigimana, ainsi qu'une de ses filles figurent parmi les victimes. Il revenait d'une fête familiale avec son épouse et ses 3 filles quand l'attaque a eu lieu. Au moins 6 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans un attentat suicide dimanche contre un commissariat de police à Mogadiscio, en Somalie, a indiqué la police. L'attaque s'est produite à Warberry, dans le sud de la ville, sur la route très fréquentée de Makka al-Mukarram. L'explosion a été tellement puissante qu'elle a détruit des parties de l'immeuble, a déclaré le chef de la police somalienne Ibrahim Mohamed. La circulation sur cette route a été temporairement fermée par la police. Parmi les victimes se trouve un commissaire de police dont on soupçonne qu'il était la cible de l'attaque.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Les marches hebdomadaires du Irak, le mouvement de contestation en Algérie, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès des autorités, mentionnant notamment l'itinéraire de la manifestation, a rappelé dimanche le ministère de l'Intérieur après un changement de parcours inopiné vendredi. Les organisateurs des marches sont tenus à la déclaration auprès des services compétents des noms des organisateurs de la marche, des heures de début et de fin, de l'itinéraire et des slogans, a souligné le ministère dans un communiqué. Les gouvernements du Portugal et du Mozambique ont signé lundi à Lisbonne un nouvel accord de coopération militaire prévoyant une augmentation des effectifs du Portugal envoyé en mission de formation au Mozambique, pays en proie à des attaques djihadistes. L'accord encadrant la coopération militaire entre les deux pays à l'horizon 2026 contient des éléments de continuité et des éléments d'évolution, a expliqué le ministre de la Défense portugais, João Gomes Cravinho, devant la presse aux côtés de son homologue mozambicain, Jaime Bessa Neto. Nous allons œuvrer pour en tirer tout le profit possible compte tenu de la situation du pays, a déclaré pour sa part le ministre mozambicain. La Côte d'Ivoire a décidé de lancer le 26 mai une campagne de sensibilisation pour apprendre à lire et inciter à la lecture dans un pays où la moitié des librairies ont fermé en une dizaine d'années, a expliqué l'écrivain King Joby, président de l'ONG Campagne interafricaine d'incitation à la lecture, initiatrice de ce projet. Des camions bibliothèques et des membres de l'ONG vont sillonner les grandes villes ivoiriennes, en commençant par la capitale économique Abidjan, métropole d'environ 5 millions d'habitants, pour donner des conférences publiques et faire du porte-à-porte afin d'inciter à la lecture. La campagne ciblera dans un premier temps les enfants des écoles, car il faut nécessairement réduire le taux d'analphabétisme, indique l'ONG. Le général Mahamat Idriss Déby, chef du conseil militaire de transition au Tchad, s'est entretenu lundi à Niamey avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, et doit se rendre dans l'ouest de ce pays où sont stationnés 1200 soldats tchadiens qui combattent les djihadistes. Le général Mahamat Idriss Déby, qui dirige la junte au pouvoir depuis la mort fin avril de son père, Idriss Déby Itno, est arrivé en début de matinée à Niamey. Il est venu pour voir ses troupes à Terra et il en a profité pour discuter avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, a indiqué une source à la présidence nigérienne. Mohamed Bazoum a été désigné en avril par le G5 Sahel, qui regroupe 5 pays de la région, à savoir Tchad, Niger, Burkina, Mali et Mauritanie, comme facilitateur entre les nouvelles autorités tchadiennes et un groupe rebelle, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. L'armée tchadienne a affirmé dimanche que l'opération contre ces rebelles, qui mène depuis un mois une offensive, était finie et que la situation est revenue à la normale.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur la santé avec Françoise Niamien.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine du jour sur la santé porte sur la Journée mondiale de la fibromyalgie qui est célébrée le 12 mai de chaque année. La fibromyalgie est une maladie méconnue et pour laquelle il n'existe encore aucun traitement curatif. La fibromyalgie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les gouvernements, les institutions et les médias sur la situation des personnes qui souffrent de ces maladies orphelines, c'est-à-dire sans traitement ni prise en charge et incurables dans l'état actuel des connaissances et des moyens. La fibromyalgie, maladie chronique, caractérisée par une sensation de douleur générale diffuse ou de brûlure de la tête aux yeux, avec un sentiment de fatigue profonde, sans lésion. Une condition douloureuse pouvant devenir invalidante. Cette maladie affecte 3% de la population. Née le 12 mai 1820 en Grande-Bretagne, Florence Nightingale, exerçant le métier d'infirmière lorsqu'elle a contracté une forme grave du syndrome de la fatigue chronique et de la fibromyalgie vers l'âge de 35 ans. Elle a passé quasiment les 50 dernières années de sa vie clouée au lit. Malgré sa maladie, Florence Nightingale est à l'origine de la fondation de la Croix-Rouge internationale et elle a également fondé la première école d'infirmières. Elle représente un symbole fort de résistance et de lutte contre la maladie. C'est la raison d'être de cette date symbole du 12 mai qui rappelle sa naissance. 9 malades sur 10 sont des femmes, principalement de 35 à 45 ans, touchées en pleine période professionnelle. Cette maladie s'accompagne également d'autres symptômes tout aussi douloureux. Un sommeil non reposant, fatigue et raideur au lever, des maux de tête ordinaires ou fortes migraines, des troubles digestifs, diarrhée ou encore constipation, ballonnement ou nausées, des troubles génitaux urinaires, des états dépressifs ou d'anxiété, plus souvent la conséquence que la cause de la fibromyalgie. Ces symptômes sont aggravés par le stress, les émotions, un manque ou excès d'activité physique ou par un travail trop contraignant ou des tâches répétitives. Un programme d'exercice physique contribue à soulager les douleurs. Inversement, il faut planifier des efforts réalistes et les fractionner en fonction des variations des symptômes. On peut recommander de la marche rapide 2 fois par semaine, 30 minutes d'étirement par jour, du yoga et des exercices respiratoires 2 à 3 fois par jour. Par ailleurs, il est important d'éviter des excitants, thé, café, cola, alcool. L'alimentation doit être variée et inclure largement des antioxydants, soit beaucoup de fruits et de légumes frais. Aussi, le sommeil est fortement perturbé chez les personnes atteintes de fibromyalgie. Quelques règles simples peuvent éviter le recours aux tranquillisants et aux somnifères. Pour compenser les pertes de sommeil, on peut planifier des siestes brèves d'une quinzaine de minutes et fractionner les efforts. Il est préférable de se coucher avant 23 heures dans une chambre confortable où il règne une température modérée. Contre le repli sur soi, les sentiments négatifs et les syndromes dépressifs, il est important de planifier durant la journée des pauses et des périodes de relaxation. Cependant, lutter contre l'isolement et l'incompréhension contribue déjà à l'amélioration des symptômes de la fibromyalgie. L'entourage a ainsi un rôle essentiel à jouer en reconnaissant tout simplement l'existence de cette maladie et ses manifestations. Pour ce qui est du profil du malade, il faut savoir que la maladie peut se déclarer dès l'enfance. Elle se retrouve alors sous forme de douleurs dorsales, aux genoux, surtout après le sport, de la fatigue, des maux de tête, une hyper-réactivité pour certains et des problèmes de concentration à l'école. La maladie se déclenche aussi à l'adolescence, mais touche plus particulièrement les femmes de plus de 50 ans. Plusieurs cas peuvent se rencontrer dans la même famille, ce qui laisse penser à l'existence de facteurs génétiques prédisposant à la maladie. Mais l'origine de la maladie reste à ce jour inconnue. En fait, cette maladie peu connue des médecins et insuffisamment diagnostiquée est pourtant une affection courante. Le problème est qu'elle ne se voit pas. Tous les examens biologiques, radiologiques sont normaux dans la fibromyalgie. Pourtant, les maux de tête dont souffrent les malades n'en sont pas moins réels et sont d'autant plus difficiles à vivre qu'ils ne sont pas pris au sérieux. En revanche, les causes de la fibromyalgie restent inconnues. Il n'existe pas de traitement curatif de la maladie. La prise en charge vise essentiellement à soulager les symptômes. Mais l'adoption d'une part de la bonne attitude de vie peut également contribuer à améliorer le quotidien des malades, comme c'est le cas pour les autres maladies chroniques.
Camille Moukosso présente la rubrique sur la technologie.
Commençons notre rubrique sur la technologie par la Tunisie qui a lancé le lundi dernier le premier satellite entièrement conçu et fabriqué sur son sol par des ingénieurs tunisiens. Une réussite symbolique forte pour le pays qui se positionne de plus en plus comme un carrefour technologique entre l'Europe et l'Afrique. C'est aussi un succès pour Telnet, le groupe d'ingénieurs qui a développé Challenge One, les nanosatellites des 5 kilos. Dans une allocution prononcée à l'occasion, le président de la République Kaïd Saïd a exprimé sa fierté face à l'événement qui reflète, selon lui, l'aspiration de la Tunisie et de ses jeunes à dépasser les limites de la Terre et à gagner l'espace. Des chercheurs aux États-Unis viennent de mettre au point un accumulateur d'un nouveau genre au sodium et sans anode. La découverte pourrait permettre de créer des batteries plus petites, plus écologiques et moins chères. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Advanced Science, des chercheurs de l'université Washington de Saint-Louis aux États-Unis sont parvenus à créer une batterie au sodium en supprimant tout simplement l'anode. Elle est remplacée par une feuille de cuivre comme capteur de courant. Plutôt que d'être captée par l'anode, les ions des sodium se transforme en métal puis se plaque sur la feuille de cuivre. La phase de recharge de la batterie dissout ce métal et les ions retournent à la cathode. La suppression de l'anode permettra de réduire considérablement la taille des batteries. Les équipes d'appel en partenariat avec l'Université de Washington mènent une étude de 6 mois pour savoir si les capteurs de l'appel montre peuvent prédire le premier signe conduisant à la détresse respiratoire due au nouveau coronavirus ou d'autres maladies. Le scientifique a remarqué que les capteurs de montre connectés pouvaient éventuellement relever une contamination au nouveau coronavirus avant même que le premier symptôme de la COVID-19 soit déclaré. C'est en grande partie les capteurs des fréquences cardiaques qui indiquent si les variations des rythmes mais sont suffisamment significatives pour indiquer la présence de la COVID-19. Pour aller plus loin dans ces sens, les chercheurs de l'Université de Washington se sont associés à Apple pour étudier comment cette montre peut parvenir à affiner cette prédiction avec fiabilité. Mais attention, cette expérimentation ne porte pas uniquement sur la COVID-19, elle s'intéresse aussi aux autres maladies respiratoires transmissibles. Microsoft teste actuellement un nouveau système de refroidissement avec un liquide bouillant pour ses data centers, appelé refroidissement par immersion biphasée. Ce nouveau système en deux phases a été inventé par les mineurs des crypto-monnaies. Les composants des serveurs sont plongés dans un réservoir rempli de liquide non conducteur développé par l'entreprise 3M avec une température d'ébullition à 50 degrés Celsius. Selon Microsoft, on peut déduire la consommation d'eau des centres des données. Cette solution diminuerait la consommation électrique des serveurs de 5% à 15 degrés. De plus, les composants sont ainsi protégés contre les effets corrosifs de l'humidité et de l'oxygène. Pour l'heure, Microsoft teste le refroidissement par immersion biphasée, mais compte multiplier les expériences dans les prochains mois afin d'éprouver sa viabilité. Facebook vient de présenter en détail ses features bracelets pour interagir avec les éléments virtuels dans la réalité augmentée. En mesurant les impulsions nerveuses, ils pourront détecter les mouvements des doigts sans utiliser des caméras ou de gants. Des pressions et vibrations des bracelets permettront de ressentir les objets manipulés. Pour fonctionner, la firme a intégré des capteurs dans les bracelets afin de mesurer les signaux nerveux qui traversent les poignets lorsqu'on bouge les doigts. Et cette technologie est suffisamment sensible pour détecter un mouvement des doigts d'un seul millimètre. Adidas vient de dévoiler des nouvelles chaussures de sa gamme 4D avec une semelle intercalaire formée d'un treillage imprimé en 3D. Ce modèle high-tech a été conçu pour assister le coureur en le propulsant vers l'avant. Les nouvelles chaussures d'Adidas sont pour le moins particulières, elles sont baptisées 4D vers l'avant. Ce nouveau modèle fait partie de la division Running High-Tech de la marque et a été développé en partenariat avec l'entreprise Carbon, spécialisée dans l'impression en 3D. C'est justement leur procédé qui fait la force de ces chaussures. Les semelles ainsi fabriquées sont constituées d'un triage 4D pour assister les coureurs et composées de 40% des matériaux biosourcés. Selon Adidas, cette structure se compresse lors des impacts verticaux et transforme cette force en mouvement vers l'avant, créant une économie d'énergie lors de la course. La tige de la chaussure est composée d'un nouveau tissu créé à base de polyester recyclé et conçu pour épouser les pieds comme une chaussette.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-José Moindo-Boisboilo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Amen.